9h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
C'est le journal de Martin Guez avec à la une un soleil toujours plus haut, des records toujours plus chauds, même le nord de l'Europe n'est plus à l'abri.
Et la vague de chaleur qui touche tout le continent, la Belgique par exemple, s'apprête à vivre la nuit la plus chaude de son histoire. Près de 30 degrés, le plat pays absolument pas habitué à de telles températures. Témoignage rare à suivre ensuite en France, celui de parents dont la plainte n'a pas été prise en charge correctement dans une affaire de violence sexuelle contre leur enfant, alors que le pays réévalue 70 000 plaintes après l'onde de choc de l'affaire Liana. Gros plan ensuite sur notre enquête en Chine, où les autorités mettent la pression sur la communauté LGBT, où de nombreux événements sont successivement annulés dans le pays. Et puis enfin, la nuit au Mondial fut pauvre en but, mais riche en points pour le Ghana, qui fait un grand pas vers les 16e de finale après son nul 0-0 contre l'Angleterre.
École fermée, piscine gratuite, ventilateur en rupture de stock, l'Europe fait face à l'une des pires canicules de son histoire.
La gratuité des piscines municipales, c'est seulement aux Pays-Bas. En revanche, la pénurie de ventilateurs touche toute l'Europe de l'Ouest. En France, le groupe Carrefour en a vendu 30 000 en une seule journée, c'est 1000 fois plus que d'habitude. La France, où 68 000 foyers sont privés d'électricité, dans l'ouest du pays, la chaleur qui a endommagé un transformateur en Bretagne, où la vigilance rouge, le niveau d'alerte maximum est activé, comme c'est le cas dans 58 départements français. Les jours passent et les records de chaleur qui tombent aussi. En Belgique, qui s'apprête à passer la nuit la plus chaude de son histoire et qui se prépare en conséquence, Pierre Benazé.
À la terrasse de la place Keim à Bruxelles, Laetitia déguste une glace aux fruits de la passion après une éprouvante journée d'institutrice.
Là, il fait très chaud dans les classes. Il n'y a presque pas d'ombre dans les cours, en fait. Il n'y a presque pas d'arbres. Donc voilà, les enfants ont très chaud. On est de côté nord, mais il fait très chaud. On n'arrive pas à diminuer la température. On a mesuré, il faisait 34 degrés, ouais. On n'a pas de ventilation. Mais normalement, à partir de demain, on a demandé aux parents de venir chercher, si c'était possible, leurs enfants à midi pour les garder chez eux, quoi.
En face, le magasin de bricolage d'Eliott a été carrément dévalisé de tous ses ventilateurs en l'espace de 3 jours.
Vendredi, on a reçu un transfert d'une trentaine de pièces. Et avant ça, j'avais une trentaine de pièces aussi. Et ce matin, j'avais plus que 4 ventilateurs.
Et ils sont plus là.
On les a vendus en l'espace d'une matinée aussi. Donc, tout acheté. J'avais des petits de table, j'avais des moyens de table, j'avais des grands sur pied. Vraiment, ils ont tout pris, quoi.
Les autorités communales font circuler les emplacements des fontaines à eau potable ou des îlots de fraîcheur, et plusieurs communes ont décidé de suspendre les cours dans l'après-midi jusqu'à ce vendredi. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
La Belgique, où l'Atomium, l'un des symboles de la capitale Bruxelles, va adapter ses horaires et fermer l'après-midi. Même chose en France pour la Tour Eiffel et pour le musée du Louvre. La France, où au moins 40 personnes sont mortes par noyade depuis une semaine.
La canicule en Europe, on en reparle dans la revue de presse internationale, la presse journal. Le Congrès américain, Martin, adopte une résolution pour ordonner le retrait des forces américaines dans le conflit contre l'Iran.
Ce qui a fait enrager le président américain Donald Trump, une résolution symbolique qui n'a pas force de loi, mais qui va dans le sens de la fin de la guerre débutée le 28 février dernier, même si l'Iran et les États-Unis affichent toujours leur divergence sur le détroit d'Ormuz et sur le dossier du nucléaire. Au lendemain de la fin des discussions à Lucerne, en Suisse, hier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a exclu l'imposition par l'Iran de frais de passage dans le détroit, répétant que Washington n'accepterait ni péage ni redevance, alors que l'Iran et Oman ont, dans un communiqué commun, fait savoir qu'ils restaient souverains sur ces eaux territoriales et qu'ils étudieraient les coûts d'administration du détroit. Alors qu'une délégation iranienne de haut niveau était hier à Mascat, la capitale d'Oman, Guilhem Deltaï.
Un engagement à maintenir un passage sécurisé. Ce sont les mots choisis par Oman et l'Iran pour décrire leur position concernant l'avenir de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Mais leur communiqué commun ne mentionne pas un passage libre, simplement un respect du droit international. Les deux pays affirment ainsi rester dans une légalité, mais sans prendre d'engagement sur l'absence à terme de frais de passage. Oman et l'Iran annoncent même mettre en place un groupe de travail conjoint. Celui-ci est censé élaborer une position commune des deux pays sur la gestion du détroit d'Ormuz. La façon dont cette voie de navigation sera gérée par les deux pays, les services qui seront fournis et les coûts qui y seront associés. Ces derniers mois, Oman n'a pas écarté l'idée iranienne d'instaurer des frais de passage. Une idée en revanche vivement dénoncée par les autres monarchies pétrolières de la région, mais Mascate et Téhéran se défendent de mener une politique du fait accompli. Les deux capitales capitale insistent sur leur souveraineté sur le détroit d'Ormuz, mais annoncent l'ouverture d'un dialogue avec les pays riverains du Golfe, des pays attaqués par l'Iran ces derniers mois, mais qui sont des partenaires de premier plan pour Oman.
Et hier, une trentaine de bateaux ont tout de même pu traverser le détroit. Le protocole d'accord signé la semaine dernière entre les États-Unis et l'Iran prévoit théoriquement une réouverture du détroit et un passage libre pendant 60 jours.
RFI 9h05 à Paris, une loi intégrale sera examinée en France contre les violences sexistes et sexuelles.
Une demande de longue date des associations féministes et de défense des droits des enfants. Demande qui se faisait encore plus pressante depuis le scandale de l'affaire Liana dans le pays, qui a fait éclater au grand jour les dysfonctionnements de la justice dans la prise en charge des violences sur les mineurs. Liana, du nom de cette jeune fille de 11 ans, retrouvée morte il y a 3 semaines dans le sud-ouest du pays, victime d'un multirécidiviste, jamais inquiété auparavant, malgré une plainte déposée par la mère d'une enfant qui accusait le même homme de l'avoir violée une 50aine de fois. RFI vous propose ce matin un témoignage rare qui illustre la mauvaise prise en charge des victimes dans les affaires de violences sexuelles sur les mineurs. Témoignage de parents dont la plainte n'a pas été prise au sérieux, témoignage recueilli par Pierre-Olivier.
Il y a quelques jours, Isabelle, la mère d'un petit garçon de 10 ans qui accuse son babysitter d'agression sexuelle, reçoit le jugement de relax du tribunal de Bobigny. En cause, un manque de preuves. Mais ce qui la choque le plus, ce sont les commentaires écrits par les magistrats et oubliés dans le jugement. Une mère plus bohème que bourgeoise, y lit-on, une psychologue qui entraîne son fils dans un délire de victimisation. Isabelle, la mère, tombe de sa chaise.
C'était d'abord un tremblement dans tout le corps. Et après, très vite, je sentais vraiment de la colère qui montait. Enfin, je me disais, mais c'est pas possible, en fait, que la parole de mon fils soit traitée comme ça. C'est nauséabond, en fait. La justice rajoute une agression de plus. Alors que, enfin, la victime mérite d'être traitée avec tout le respect que sa souffrance appelle.
Lucas, le père, dit ne plus avoir confiance en la justice.
Ça remet en cause notre jugement. Mais ça remet aussi en cause tous les jugements que ces personnes-là ont prononcés. Qu'est-ce que ça veut dire, un biais cognitif comme ça? Ce qu'il faut prendre en compte, c'est la douleur des victimes, c'est la protection des personnes qui sont en danger. On voit bien que là, c'est pas un problème de moyens. Ces personnes, elles ont perdu le sens de leur travail.
Les parents ont saisi le Conseil supérieur de la magistrature. Paul Jouty est leur avocat.
Là, on a vraiment une blague de très mauvais goût qui confine au jugement de valeur, qui dit beaucoup de choses sur une vision de la société et de la manière dont on catégorise les gens. Et surtout, ça révèle, dans ce cas-là de figure très particulier, vraisemblablement le point de vue d'un magistrat qui ne faisait que peu de considération de la parole de cet enfant. Oui, ça c'est certain.
Contacté, le tribunal de Bobigny assure que toute la lumière sera faite sur cette affaire et présente ses excuses à la famille.
Et nous reviendrons longuement sur ce dossier précis tout à l'heure dans RFI Midi. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'est lui dit favorable hier à la création d'un fichier de surveillance des pédocriminels dans le pays.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Kinshasa où le président burundais a achevé sa visite.
Évariste Ndayishimiye, actuel président de l'Union africaine, qui a conclu cette visite de 2 jours par une rencontre avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont notamment appelé à la solidarité internationale et à plus de coopération pour faire face à l'épidémie d'Ebola qui sévit toujours dans l'est de la RDC. Coopération renforcée notamment avec l'Ouganda, avec qui la RDC partage près de 800 km de frontières. Les deux pays ont lancé hier en Ituri une opération commune de surveillance et de dépistage, avec notamment le déploiement de laboratoires mobiles. Kinshasa qui veut donner des gages à son voisin et qui veut rassurer, alors que la frontière est fermée depuis près d'un mois. Envoyé spécial à Arou, en Ituri, Pascal Moulégua.
Au cœur du dispositif, un laboratoire mobile installé à moins de 10 km de la frontière ougandaise. Une infrastructure stratégique dans cette zone de forte mobilité. Pour les autorités locales, cet outil marque un tournant dans la lutte contre une épidémie. Johnny Wadri Adjoma, maire de cette commune de près de 200 000 habitants.
Nous sommes à 300 km de Bounia, là où les échantillons allaient pour les examens. Et à défaut, ça passait jusqu'à Kinshasa. Voyez-vous, nous sommes à 2000 km à vol d'oiseau. En tout cas, l'avènement de ce laboratoire, vraiment, ça rassure pratiquement tout le monde. Plus rien à craindre, la situation sous contrôle.
Le docteur Moïse Aguenoun est le médecin directeur de l'hôpital général d'Arou qui accueille le laboratoire.
Notre laboratoire a une capacité d'analyse de 4 échantillons par heure avec une autonomie d'énergie. Déjà quand ce laboratoire n'était pas là, les séjours moyens des patients en attente de leurs résultats étaient autour de 7 à 8 jours. Nous avons réduit ces séjours moyens-là à 72 heures tout au plus.
Un dispositif pour rassurer non seulement l'Ouganda mais d'autres pays de l'Est africain. Les deux pays partageront à la fois les informations et mutualiseront les solutions. Dieudonné Mwamba, le directeur général de l'Institut national de santé publique de la RDC, l'organe qui gère les ripostes aux épidémies.
Nous aurons des équipes qui vont travailler ensemble, donc c'est vraiment la matérialisation de cette collaboration et pour être sûr que que de part et d'autre, la surveillance se fait de manière efficace, la détection des cas et même la prise en charge.
Une approche saluée par la délégation ougandaise présente à Arou. Les autorités congolaises espèrent désormais que ces avancées permettront une reprise totale des échanges transfrontaliers. Pascal Moulégua, Arou, RFI.
Et le président congolais Félix Tshisekedi a lui annoncé qu'il se rendra à Bunia, capitale provinciale de l'Ituri, épicentre de l'épidémie dans les tout prochains jours.
En Chine, les autorités mettent la pression sur plusieurs sites.
Sitting on a bed, dead and dead. Are you dead too? I need your arms twisting around.
ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif.
Eh bien, on va déjà habituer nos auditeurs à ces bruits qu'ils vont entendre.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
DJ. Ouais, laisse aller, c'est une putain de valse, ouais. Tout le monde s'en balance, tout le monde s'en balait. On n'est pas des bolosses, on s'en fout quand même. T'as un pneu dans l'anus, t'as gardé ton flingue. Tu kiffes, c'est juste la putain de grosse flemme. Dans mes jeux, le veux fermer les yeux. Regardez les anges, regardez les mieux. Oui, c'est merveilleux, tu peux pas rêver mieux. Tout est parfait, que c'est du pareil au même. Faut pas se réveiller, je voudrais rien te révéler. Tous ces trucs de filet, je voudrais pas t'en mêler. Sans vouloir trop filer, une métaphore grillée. L'ombre est parfois préférable à la lumière. On n'en est pas des nous, des putains de lumière. Et ils sont passés où mes mutins d'hier. Que sont leurs prières, devenues mystères. Avec le putain disparu flibustier. Ça y est, t'y es, te v'là où t'y es. T'as lu ce qu'il fallait, c'était plus qu'il paraît. Maintenant t'es paré, mais t'es pas rassuré. Tu sens que ça pue, mais tu te fais quand même fumer. Tu te fais enrhumer, perdu dans la fumée. La cervelle embrumée comme à l'accoutumée. D'un seul coup tu mets ton éthique de côté. Tic-tac, tes jours sont comptés, mec c'est foutu. Toi tu t'en foutu, ça vaut ce qu'est goûtu. Tu sais quoi, t'as raison, foutu pour foutu. Moi j'irai pêcher le tout dernier ton rouge. Avec le tout dernier plein d'essence, indécence. Ils en ont rien à foutre, on en a rien à foutre. Qu'est-ce que t'en as à foutre et moi qu'est-ce que je vois. Ils en ont rien à foutre, on en a rien à foutre. Qu'est-ce que t'en as à foutre et moi qu'est-ce que je vois. Ils en ont rien à foutre, on en a rien à foutre. Qu'est-ce que t'en as à foutre et moi qu'est-ce que je vois. Ils en ont rien à foutre, on en a rien à foutre. Qu'est-ce que t'en as à foutre et moi qu'est-ce que je vois. Sérieusement je crois bien qu'on me ment. Honteusement fais pas genre c'est dément. Tu ne trompes que le vent et éventuellement un petit auto-conditionnement gentiment. Frix planète dans son dessus, elle est sans dessus dessous. On s'en soucie plus et on est sous dessus. On s'en fout du ouf, j'suis même pas issu. Gachou à terre pouf et c'est qu'un aperçu. Perdu pour perdu, pourvu que ça perdure. Regarde bien la verdure avant que j'en ai plus. Cette face t'a déplu, j'suis pas fan non plus. Mais c'est cette putain de vérité toute nue.